Kinshasa. Je suis tout à fait d'accord.
Moi, c'est André Zimbouzmaï au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Mécanisme innovant des financements de l'assainissement pour les entités territoriales décentralisées, tel est l'un des sous-thèmes qui a été débattu lors du déjeuner débat organisé par Expo Béton le 13 septembre dernier à Kinshasa. En effet, Expo Béton a mis en place des stratégies pour le financement des entités territoriales décentralisées, ETD en sigle. Ces stratégies consistent à aider ces entités à accéder au financement afin de leur permettre de faire face aux déchets, immondices et autres résidus qui rendent insalubles nos territoires, villes, communes et quartiers, parce que cela constitue une véritable menace pour notre santé. Que pensez-vous de ces mécanismes innovants de financement de l'assainissement pour les entités territoriales décentralisées? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099-706-80-79. Debsé Vitaï à la mise en onde de ces magazines, Paul Badianyama assure le live de cette émission et Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination à la présentation Guy Maté.
Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à
ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le Kinshasa, dans ces pays, n'existait pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui sont en train de réagir déjà sur la page Facebook et ceux qui se sont fait inscrire pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de ces mécanismes innovants de financement de l'assainissement pour les entités territoriales décentralisées, mécanismes mis en place par Expo Béton. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio Monsieur Francis Ousseni, il est secrétaire général d'Expo Béton et président de l'organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC en sigle. Bonjour, Monsieur Francis Ousseni.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, en quoi consiste ces stratégies que Expo Béton vient de mettre en place au profit des entités territoriales décentralisées?
Bon, il faut dire que d'abord, Expo Béton ne donne pas, ne présente pas une formule magique. Mais Expo Béton, à travers, comme vous l'avez annoncé, à travers le déjeuner débat qui a été organisé sur ce thème il y a de cela deux semaines, l'idée c'était d'abord de réunir les acteurs, tant institutionnels que ceux du secteur privé et de la société civile, pour réfléchir sur la question. Parce que on est parti d'un constat. Si aujourd'hui nous vivons dans et autour des déchets immondices et tout ce que nous voyons de déplorable dans notre environnement, cela veut dire qu'il y a un problème. Et dans la plupart des cas, on situe le problème au niveau du financement. Et c'est pour ça que s'il faut arriver à changer les choses, nous pensons qu'il faut d'abord changer des méthodes. Donc la question c'est de dire qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là pour que la situation soit là où elle est arrivée aujourd'hui. Et s'il faut résoudre le problème, donc il faut changer de méthode, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc il faut changer la manière de faire les choses. Alors, quand on situe le problème au niveau du financement, parce que dans le déjeuner débat, par exemple, auquel nous avons participé la fois dernière, il y avait la présence notamment des bourgmestres. Quand beaucoup des acteurs vous disent que il y a la volonté de faire quelque chose de mieux que ce que nous voyons, il y a la volonté d'améliorer. Mais ce qui pose problème, c'est le financement. Alors donc il faut analyser la question par rapport au financement. Quelles sont les sources de financement actuelles? Alors s'il faut trouver d'autres voies, c'est là que nous parlons des mécanismes innovants. Donc c'est dans le sens de dire il faut une réflexion approfondie. C'est un sujet qui est mis sur la table. Ce n'est pas dit que Expo Béton donne une formulation magique, mais Expo Béton ne fait que lancer les débats pour que nous puissions arriver à un réel changement par rapport à notre manière de vivre.
Et donc, Expo Béton n'a pas proposé de nouvelles idées, mais Expo Béton a demandé, n'est-ce pas, à tous les acteurs impliqués dans les secteurs de pouvoir réfléchir, c'est ça?
Expo Béton, c'est l'un des acteurs. Il ne peut pas donner des idées pour dire que c'est ça que vous devez faire. Donc, Expo Béton, en tant que structure qui accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique, parce que le gouvernement a une politique en matière d'assainissement, en matière de gestion des déchets. Alors, aujourd'hui, Expo Béton lance un appel, lance le débat pour dire, mais il y a un problème, il faut que quelque part, à un moment donné, qu'on s'arrête. Il faut apporter aujourd'hui des solutions face à une problématique qui est non seulement cruciale, mais qui devient aujourd'hui un problème sérieux de société. Et il faut même, avant d'aller plus loin, avant de parler financement, moi j'aurais bien voulu que nous voyons le problème à la source. Aujourd'hui, quand nous regardons la question de l'assainissement, si vous voulez, la problématique c'est laquelle? La problématique c'est la gestion des déchets. Comment nous gérons nos déchets? Tous les immondices que nous avons sur nos emprises, dans les caniveaux, dans les collecteurs, dans les rivières, partout, viennent de quelque part. Donc, quand nous regardons le problème à ce niveau-là, c'est ce qui va nous conduire à une réflexion profonde pour nous permettre de voir de quelle manière nous finançons aujourd'hui l'assainissement de nos communes, nos villes, de manière maintenant à proposer des solutions qui soient plus efficaces. Donc, par la réflexion d'Expo Béton, la proposition essentielle, c'est celle d'une réflexion d'abord profonde. Et en réfléchissant en profondeur, il y a des pistes, bien sûr, qui ont été analysées, qui ont été même suggérées, et dans le développement de l'émission, je pense qu'on pourrait en donner quelques-unes.
Voilà, lorsque vous réfléchissez, vous devez tenir compte, n'est-ce pas, de certaines réalités auxquels nous faisons face dans un pays comme la RDC. C'est comme, par exemple, qu'est-ce que Expo Béton peut proposer comme solution à l'usurpation des compétences, n'est-ce pas, sur la salubrité et aussi sur les ressources financières de certaines ZTD par les provinces et aussi de certaines villes face à certaines communes. Bon, parce que ça, c'est un problème réel. Hein. C'est-à-dire que les ZTD, comme certaines communes, n'ont pas assez de pouvoir. Et ces pouvoirs-là sont beaucoup plus usurpés par les provinces en ce qui concerne les ZTD et par les villes en ce qui concerne les communes.
Bon, il faut dire aujourd'hui, en ce qui concerne le financement, et vous parlez aussi de pouvoir, ces questions sont liées. Quand on regarde la manière dont l'assainissement est fait. Quand on regarde la manière dont la gestion même des déchets et tout ça est organisé, on se rend compte d'abord qu'en ce qui concerne nos villes en général ou particulièrement la ville de Kinshasa parce que c'est ici que nous vivons tous et c'est la capitale, on se rend compte d'abord qu'il y a une certaine centralisation parce qu'il y a des services techniques qui opèrent au niveau de la ville. Ces services se retrouvent au niveau urbain, mais au niveau décentralisé, au niveau des ETD, au niveau des communes, on ne voit pas la présence de ces services. Ce qui fait que les décisions qui sont prises au niveau urbain, au niveau de la ville, ne trouvent pas une certaine efficacité d'opération au niveau des communes, parce que les communes, par exemple, là je vais donner un cas concret, l'un des bourgmestres qui a participé au déjeuner débat de la fois dernière, nous a fait voir, par exemple, une réalité. Vous êtes dans votre commune, vous apprenez qu'il y a un travail de curage qui s'est fait quelque part. Vous n'avez ni été associé à la préparation de ce travail. Vous ne savez même pas d'où vient le financement de ces gens-là qui travaillent, comment ils vont être payés et qui organisent.
Alors qu'il s'agit de votre propre commune.
Il s'agit de votre propre commune. Ça, c'est une réalité qui pose réellement problème de gouvernance. Et il a déjà été démontré qu'une gouvernance qui n'est pas décentralisée, qui n'est pas rapprochée de ceux qui vivent le problème, ne pourra pas avoir de l'efficacité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde parle...
Alors que la gouvernance devrait être décentralisée, en principe.
Bien sûr, quand on parle de la décentralisation au niveau territorial, il faudrait aussi que tout ce qui accompagne la décentralisation au niveau de l'effectivité de tout ce qui s'est fait, notamment la question de l'assainissement, que ça suive. Alors, quand c'est fait au niveau de la province, sans que les communes, pour les cas bien sûr de la ville de Kinshasa, on parle de la ville-province de Kinshasa, donc on observe donc qu'il y a justement cassure quelque part. Alors cette cassure fait que les bourgmestres, ils ne se sentent pas suffisamment impliqués, ils ne se sentent pas suffisamment soutenus, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés et dans la proximité et au quotidien. Donc ici, l'enjeu majeur réside au niveau 1, de la responsabilisation de communes. 2, la dotation des communes, aux communes des ressources nécessaires pour leur permettre de rendre efficace le travail qu'ils font ou qu'ils sont censés faire aussi. Donc c'est à ce niveau-là que déjà là, je suis en train de présenter les pistes justement de solutions proposées, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui arriver à une effectivité d'un réel assainissement si les communes, si les bourgmestres ne sont pas suffisamment responsabilisés, mais s'ils n'ont pas non plus les moyens de leur politique. Parce que qui dit commune, dans les communes il y a les bourgmestres, il y a les chefs de quartier, mais il y a même les chefs de rue. Mais quels sont les moyens que disposent ces animateurs à ces trois niveaux pour permettre à ce que leur travail soit visible et efficace? C'est ça l'enjeu majeur.
Et justement, face à l'absence d'initiative des révalorisations des déchets dans un cycle bien défini par les ETD, vous pensez que seul le financement suffit pour enclencher ces processus durables?
Bon, le financement ne suffit pas. Le financement doit trouver un cadre qui est à la fois administratif, légal et même, je dirais, opérationnel, qui permet à ce que le financement, une fois canalisé, puisse trouver aussi un minimum de conditions réunies pour une bonne gestion de ses finances et même une meilleure traçabilité. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a tout un ensemble de facteurs qui doivent être pris en compte de manière à ce que la situation change. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dira jamais assez, c'est que nous voyons autour de nous, c'est une situation déplorable, mais il faut ici, je dirais, saluer les efforts du gouvernement. Il faut ici saluer les efforts même des autorités de la ville aujourd'hui, parce que s'agissant de la question de l'assainissement, nous voyons quand même les efforts qui sont déployés par l'autorité urbaine à Kinshasa aujourd'hui. Nous voyons tout ce qu'il y a comme opération de démolition qui s'est fait à gauche, à droite. Et nous pensons que, et parce que cela s'inscrit tel que nous, il est dit dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga, il faut évacuer tout ce qu'il y a comme non seulement immondice, mais aussi enlever dans la ville les constructions anarchiques. Lorsqu'on va débarrasser la ville de ces constructions anarchiques, parce qu'il y a des gens qui ont construit par exemple sur des collecteurs, en construisant sur les collecteurs, on bouche les caniveaux, l'eau ne sait plus par où passer, et quand il y a pluie, avec le fait aussi que nos déchets aujourd'hui ne sont pas encore arrivés à un niveau d'un traitement industriel, ça fait que il y a des dégâts en termes d'inondations, surtout avec
les retours de pluie. C'est pourquoi il faut donc, effectivement transférer les pouvoirs à tous les ETD, toutes les ETD plutôt.
Absolument, absolument, c'est une nécessité absolue, parce que si le système qui a fait que aujourd'hui nous puissions voir les déchets autour de nous n'est pas changé ou amélioré, on ne pourra pas avoir des résultats différents. Parce que c'est le fait aujourd'hui c'est lié au fait que voulais-je dire que les déchets pendant longtemps n'ont pas vu la mise en place des infrastructures adaptées pour leur traitement, leur recyclage pour ceux qui sont recyclables. Cette carence fait que aujourd'hui nos déchets vont dans des circuits qui sont informels, les circuits qui sont inappropriés. Nos déchets vont dans les érosions, nos déchets vont dans les caniveaux, dans les cours d'eau, et terminent pour la plupart des cas, pour l'essentiel des déchets, ça termine la course dans le fleuve. Alors, s'il faut aujourd'hui mettre en place l'industrie des déchets, de gestion des déchets, je pense que ça pourra être le début de la solution.
Alors, que répondez-vous à cette thèse selon laquelle l'assainissement doit s'autofinancer soi-même, n'est-ce pas, pour qu'il soit plutôt pérennisé?
Bon, parmi les sources de financement que nous pouvons même qualifier aujourd'hui, bon, innovantes entre guillemets, mais il est vrai aussi que quand on regarde la manière dont les choses sont faites en ce qui concerne la gestion des déchets, parce qu'il faut chaque fois aussi faire un distinguo entre l'assainissement de manière générale, mais aussi la gestion des déchets, mais c'est vrai que les deux sont liés.
Ça va de pair, n'est-ce pas?
Oui, les deux sont liés. Donc, parce que quand on parle d'assainissement, par exemple, des voies publiques, on peut observer aussi qu'il y a beaucoup de déchets et même immondices, voilà, que l'on voit sur la voie publique qui viennent des ménages.
Donc, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre.
On ne peut pas parler de l'un sans l'autre. Voilà. Parce que c'est les déchets même qu'on trouve sur la place publique, ces déchets sont jetés par des individus, par des citoyens de cette ville ici. Donc, quand il s'agit de la question de l'assainissement et gestion des déchets, d'abord, au niveau du financement, au niveau de l'autofinancement, on se rend d'abord compte que dans nos quartiers, là où nous vivons, personne d'entre nous n'est à mesure de garder ses déchets dans sa maison. Ce qui fait que le réflexe normal de se débarrasser de ses déchets fait qu'il y a toute une économie qui se met en place parce qu'il y a de...
Qu'il faut savoir mobiliser.
Non, il faut savoir mobiliser, ça a une seconde phase. Mais dans un premier temps, ce qu'on observe, c'est quoi? C'est que dans nos quartiers, il y a même ce qu'on appelle des chariomènes, des pousse-pousseurs qui passent pour venir prendre nos déchets, moyennant une contrepartie que nous payons, hein, l'argent que nous payons pour évacuer nos déchets. Ça fait qu'il y a toute une catégorie de personnes qui se donnent à cette activité. Alors, puisque c'est une activité lucrative, puisqu'il y a des gens qui vivent de cette activité, quand nous essayons de faire des projections, d'après certaines études, il a été démontré, hein, bon, bien sûr, ça, il faut en analyser la fiabilité, hein, donc des chiffres. Certaines sources indiquent que pour la ville de Kinshasa, ça peut être une enveloppe qui tourne autour de 30 millions de dollars par mois, qui est mobilisé à travers ce travail-là informel de ceux qui font... 30 millions de dollars.
Alors, là, c'est selon quel espace géographique est donné? La commune, la ville?
Bon, au niveau de la ville, c'est pour ça que j'ai dit que c'est des chiffres qui restent peut-être à analyser en profondeur par des études scientifiques. Mais quand nous regardons, par exemple, selon... les milieux, nous regardons selon les communes, parce qu'il y en a qui ont un certain niveau de vie peut-être différent ou supérieur aux autres, mais dans tous les cas, partout, on a le souci de se débarrasser de ces déchets et cela donne lieu à un paiement qui, une fois, je dirais, pris dans un sens global, ça peut nous permettre de comprendre qu'il y a de l'argent qui circule. Alors, comment cet argent peut être canalisé? Comment cet argent peut être capté de manière beaucoup plus structurée? Comment organiser ceux qui s'adonnent à cette activité de manière informelle pour rendre leur travail formel? C'est tout ça des pistes qui nous montrent qu'il y a moyen de mieux faire, mieux organiser les choses de manière à ce que la ville soit beaucoup plus propre parce que on aura fait partir une activité de l'économie informelle vers un circuit formel mieux structuré, mieux organisé.
Merci, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment-ci votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des mécanismes innovants des financements de l'assainissement pour les entités territoriales décentralisées, mécanismes mis en place par Expo Béton. On en parle avec notre invité qui est ici présent au studio, Francis Ousseni. Il est secrétaire général d'Expo Béton et président de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC en sigle. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler, comme nous l'avons dit, au 099-706-8079, au 099-706-8079.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous allons à présent ouvrir notre standard avec les auditeurs qui sont déjà en ligne. Et là, nous partons dans les Haut-Katanga, Lubumbashi, avec Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour Guy Mathieu, bonjour aux invités, à tous les auditeurs de la radio, et puis aux invités également en studio.
Vous avez la parole, Maître Patrick Odia.
Merci Guy Mathieu, c'est au niveau du débat. Après avoir suivi l'exposition du secrétaire général des combattants, je trouve qu'il est intéressant du fait que c'est dans son domaine. Mais aussi, il faudrait également reconnaître que son domaine fait appel à beaucoup d'autres départements, notamment l'économie, juridique également. Alors, que faire pour trouver des mécanismes innovants de financement des ETP en termes de l'immondice, vite contre l'immondice et des déchets et tout ce qui va avec? Au-delà de mécanismes ordinaires, on va dire même classiques, qui ne sont que le renforcement de la fiscalité locale, ni n'est censé ignorer qu'en tant qu'ETP, cette entité juste de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire, administrative et financière également, qui leur permet, cette autonomie qui leur permet de pouvoir arrêter et prendre des décisions qui sont en matière de développement également. Pour ce faire, la loi est claire, ou les lois, ou les tests aujourd'hui qui sont clairs, notamment les renforcements de la fiscalité locale. Est-ce qu'au niveau des ETD, on met l'accent sur la mobilisation et aussi la bonne gouvernance également de la fiscalité locale? C'est la première question. Parce que ce sont des mécanismes ordinaires. L'invité ne pourra pas me dire le contraire également. Mais quand je parle des renforcements de la qualité du matin, je parle de la création ou des améliorations des taxes spécifiques sur l'assainissement. Mais à cette façon, le Bumbashi, par exemple, au MINITD, il a vu, il y a également des taxes sur l'assainissement. Mais il se pose un problème réel de la gouvernance de ces taxes perçues par la mairie ou par les ETB. Et pour s'en convaincre, vous ne pouvez que venir à Bumbashi, vous pouvez aller à Matadi, des grands, vous allez vous rendre compte que cette taxe, ou ces taxes, ne sont pas bien gérées, si bien qu'elles existent, soit elles ne sont pas bien collectées, c'est-à-dire en termes de mobilisation, soit elles ne sont pas bien gérées. Et ça, c'est un grand problème. Vous pouvez voir un maire de la ville qui gère en toute opacité ces taxes d'assainissement également, alors que les gens payent ces taxes également. Ça, c'est un grand défi également. Mais au-delà de ça également, il faut lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle locale. Souvent, on parle de l'évasion fiscale au niveau national, mais on oublie aussi au niveau des ETD également. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'argent qui échappe au trésor public en ce sens également. Mais ce que j'ai réfléchi en termes de mécanismes nouveaux ou innovants, au-delà des mécanismes ordinaires que vous parlez du renforcement de la fiscalité locale, mais il faut également tabler sur le partenariat public-privé, le PPP. Et là, je m'en vais inviter l'Expo Béton de proposer également de prendre en compte cette proposition, notamment de faire une délégation de la gestion des déchets à des entreprises privées. Si vous allez au Sénégal, par exemple, ça se passe. Si vous partez en Côte d'Ivoire, par exemple, ça se passe également. Donc, on a délégué la gestion des déchets à des entreprises privées. Est-ce qu'à RDC, ça s'est fait? Que ça soit au niveau national, que ça soit au niveau local, est-ce que ça s'est fait? C'est une lettre morte également. C'est ici que nous invitons le gouvernement de pouvoir déléguer la gestion des déchets également. Je voudrais citer, en parlant également de financement participatif, Guy Maté. Et quand on parle de financement participatif, on parle de billets participatifs également, qui sont des modes nouveaux de finances publiques également. Et là, il faut aussi relever le fait qu'il y a un défi, parce qu'il y a la méfiance entre les gouvernants d'une part et les gouvernés, du fait qu'ils ne peuvent pas participer, alors que cet argent issu de la participation populaire également n'est pas bien gouverné. C'est aussi un autre défi. Et enfin, il faut faire appel à des accès à des financements extérieurs. Peut-être il y a l'organisation, l'ONI Habit, par exemple, il y a la Banque mondiale, il y a la coopération décentralisée. Il faut également parler des jumelages avec les villes partenaires à l'étranger qui peuvent également financer, et ça existe. Si vous partez au Sénégal,
Nous avons dit également au Sénégal, ça s'est passé comme ça également, les jumelages entre les villes développées et les villes sous-développées et qui signent des partenariats également. Et je pense que des subventions peuvent venir non seulement au niveau local, non seulement au niveau national également, mais au niveau également international, sans pour autant oublier les cotes-parts de la rétrocession. Et ici, nous invitons le gouvernement, le ministre des Finances qui a parlé bon hier, mais il oublie que les provinces, jusqu'à là, les ETD ne reçoivent pas la rétrocession des 40%. Et dans les rétrocessions des 40% dues aux provinces, il y a les cotes-parts dues aux ETD. Et ça peut également les aider dans les renforcements des capacités des engins dans les milieux des communes également, de territoires, j'allais dire des communes, des chefferies et tout ce qui va, mais aussi les paiements, la prise en compte financière également. Merci. De ces engins qui doivent ou qui sont déployés également. Donc cette question est complexe. Il ne faudrait pas y aller à coûte. On peut bien beau collecter les données ou les fonds, mais aussi les canaliser, les utiliser en bon escient. Ça pose également un problème. Mais il faut aussi parler que le gouvernement a une obligation de rétrocéder 40%. Voilà un peu une globosse que je peux dire par rapport à cette thématique d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Odia, pour cette intervention.
Je voulais juste te citer par une seule question.
Allez-y rapidement.
Ok. Moi, je suis juriste, je les rappelle à qui vous plaît. Je voudrais un peu demander au secrétaire général, je pense qu'ils ont tous les experts possibles également. Est-ce qu'à ce stade, il existe un cadre juridique qui soutient la fiscalité environnementale au niveau local? Est-ce qu'il y a ces cadres juridiques qui soutiennent l'environnement, la fiscalité environnementale au niveau local? Et s'il y en a, il peut quand même partager avec nous cette expérience, on peut déchiffrer également et analyser. Et la dernière question également, pourquoi les PPP en matière de gestion des déchets restent peu exploités en RDC et à l'occurrence dans les milieux territoriaux, j'allais dire dans l'entité territoriale décentralisée? Les PPP, ailleurs ça s'est fait. Pourquoi? Quel est le blocage? Le blocage se situera à quel niveau?
Merci voilà beaucoup, Patrick. Merci pour votre intervention pertinente. Nous quittons Lubumbashi le Haut-Katanga pour la province de la Tchopo où à Kisangani Blaise Saïdi nous attend. Blaise Saïdi, bonjour. Blaise Saïdi, est-ce que vous êtes là? Apparemment, il est là, mais c'est comme s'il est en train de parler avec d'autres personnes. Blaise Saïdi, est-ce que vous êtes là? Voilà. Alors, on quitte Blaise Saïdi, on quitte Kisangani pour Bukavu au sud Kivu, où Emina Mwanda nous attend. Emina Mwanda, bonjour. Emina Mwanda, est-ce que vous êtes là? Emina Mwanda de Bukavu, lui non plus, apparemment, il n'est pas là. Monsieur Francis Ousseni, vous pouvez déjà répondre à toutes ces réflexions, n'est-ce pas, qui vient de proposer notre premier intervenant, qui intervenait depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga, Maître Patrick Odia.
Oui, j'apprécie la pertinence de ces questions, mais je voudrais justement commencer par la dernière, celle qui concerne l'implication des acteurs et partenaires privés dans le secteur de la gestion des déchets. Ici, je voudrais dire quelque chose.
Dans le partenariat public et privé.
Oui, dans le cadre, bien sûr, du partenariat public et privé. Bon, ici, il faut quand même dire que moi, dans tout ce que je vais dire, je vais plus me focaliser sur la ville de Kinshasa. Hein. Bien sûr, il faudrait voir aussi quelles sont les similitudes qu'il y a avec l'intérieur du pays pour certaines villes. Mais il faut quand même noter que la ville de Kinshasa a aussi certaines particularités. Alors, s'agissant de la question de l'implication de acteurs privés, hein, industriels, si je veux dire, parce qu'il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à impliquer le secteur privé, hein, donc des grandes sociétés dans la gestion des déchets. Ici, il faut dire que c'est un réel problème, parce que quand on observe la manière dont la ville de Kinshasa se développe, on peut vite se rendre compte que les déchets que nous avons aujourd'hui, c'est une accumulation des déchets qui n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, le fait que la ville croît à un rythme assez accéléré, mais les infrastructures de traitement des déchets ne suivent pas, ça pose un réel problème. Et ça, c'est au niveau donc du diagnostic. C'est ce qui nous a permis, encore plus en profondeur, d'arriver au niveau où il faut, pour mettre en place l'industrie du traitement des déchets dans une ville comme Kinshasa, bien sûr, il faut passer par des études de faisabilité. nous avons l'avantage aujourd'hui.
Justement, il y a cette quasi-absence des sociétés locales, des entreprises locales dans ce secteur-là.
Bon,
c'est pourquoi on envisage la possibilité de mettre en place ces partenariats public-privé, ou alors pourquoi pas ne pas recourir à une sorte de sous-traitance.
Bon, ne mélangeons pas les choses, parce que quand nous disons il y a absence des entreprises locales, non, il y en a, hein, mais il faut dire que c'est à des échelles différentes. Mais quand on regarde la question aujourd'hui, la question de la gestion des déchets, c'est un secteur qui demande des moyens extrêmement importants. Alors pour une ville telle que Kinshasa se présente avec plus de 15 ou plus de 17 millions d'habitants, les chiffres exacts n'existent pas encore. On peut donc arriver à comprendre que mettre en œuvre l'industrie du traitement des déchets dans la ville de Kinshasa, ça demande des très gros moyens. Mais il y a quand même au niveau local certaines entités, certaines structures, entreprises qui existent, notamment dans le recyclage des matières plastiques. On peut citer le cas de Clean Plast, Kintoko et bien d'autres. Mais ces unités,
ne suffisent pas encore.
Voilà. Pour absorber tout ce qu'il y a comme matière plastique, qui aujourd'hui, on voit, jonche nos rues et caniveaux et partout, de notre milieu. Donc ça demande aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme des IDE, hein, des investissements directs étrangers, donc des grandes structures qui ont investi dans ce secteur ailleurs et qui peuvent aussi investir ici et changer la donne. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que nous pouvons considérer comme climat des affaires pour attirer ces investissements dans ces secteurs qui est tout à fait porteur? Alors, le point de départ de tout ça, c'est les études de faisabilité manquées dans cette ville ici. Et il faut quand même noter ici et saluer les efforts du gouvernement, parce que là, je parle et maintenant... Là, je parle de ma casquette, par rapport à ma casquette de président de OGEC. OGEC existe depuis 2001. Mais c'est depuis 2005 que nous avons signé un accord de collaboration avec la ville de Kinshasa pour mettre en œuvre ici l'industrie du traitement des déchets. À partir de la découverte que nous avions faite en 2005 au Japon, de l'existence de tout ce qui est comme traitement industriel des déchets. Donc on a amené ici des partenaires qui pouvaient nous permettre de régler la question au niveau industriel. Et évoluant avec la ville, nous sommes arrivés au niveau où, en 2019, on a introduit ici un groupe allemand et un groupe italien, et à travers le consortium que nous avons constitué, on a pu signer avec le gouvernement, en 2023, le 27 juin, les contrats qui portent sur les études de faisabilité de la gestion intégrée des déchets dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est une avancée très significative.
Et ces études ont abouti à quoi?
Ces études qui sont en phase finale bientôt, le rapport final sera publié.
Depuis
2023, ces études portent, comme je l'ai dit, sur la caractérisation, quantification et toute typologie de nos déchets solides, municipaux et assimilés.
Donc on est encore au niveau des études.
Bon, j'ai bien dit, elles sont en phase finale. Avec la fin de ces études, qui bien sûr ont couvert toute la ville de Kinshasa, ça nous permettra d'avoir des chiffres indicatif de tout ce qui est comme possibilité de filière à créer dans la gestion industrielle des déchets. Donc là, c'est une réponse précise que je donne à Maître Patrick pour indiquer que, en tout cas, dans les semaines, les mois qui viennent, nous pourrons avoir la possibilité, en présentant ces études, d'attirer les investisseurs qui veulent se lancer dans différentes filières qui concernent la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, parce que ce volet-là, l'aspect étude faisait défaut. Et avec les résultats de ces études, ça va donc nous permettre à ce que différentes filières se mettent en place.
Alors,
ça,
en commençant par accomplir certains préalables que vous l'avez évoqué ici, l'environnement des affaires, le climat des affaires.
Bon, le climat des affaires, il faut dire que ça a aussi plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte quand on parle de climat des affaires. Il a été aussi dit, bon, par moment ici, que parfois il y a certaines tracasseries administratives et autres. Mais quand on veut changer les choses, on passe par, notamment par des réformes. Donc, si dans le passé, beaucoup de ces entreprises, les grandes entreprises qui voulaient investir dans ce secteur, n'avaient pas trouvé des facilités, tant par le manque des études, tant aussi par d'autres aspects tels que vous évoquez ici liés au climat des affaires. Donc aujourd'hui, les efforts du gouvernement peuvent être concentrés sur cet aspect-là, amélioration du climat des affaires, pour rendre justement les secteurs suffisamment attractifs à travers toutes les facilitations que l'on peut accorder à ses partenaires du secteur privé, de manière à ce que ces investissements se mettent en place. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, un incinérateur, si on opte pour la technologie de l'incinération, d'une certaine capacité pour produire, par exemple, jusqu'à 10 mégawatts, ça peut nous demander un investissement autour de 100 millions de dollars. Alors, vous pouvez imaginer donc le niveau de capitaux à mobiliser pour mettre en place une industrie des déchets de niveau compatible avec ce que nous avons comme déchets dans la ville de Kinshasa.
Merci.
Et aussi en termes d'étendue. Donc, c'est un grand travail, un grand business qu'il faut créer, qu'il faut mettre en place et pour arriver donc à des résultats qu'on puisse qui soient visiblement remarquables.
Merci. Alors, merci. On peut avec votre permission, hein, donc on peut revenir à notre standard parce qu'on me dit que les auditeurs sont de nouveau en ligne. Là, nous étions à Kisangani où Blaise Saïdi nous attendait. Blaise Saïdi, bonjour.
Oui, bonjour cher Guy Maté et toute l'équipe qui vous accompagne, y compris l'invité. Ça, c'est la pertinence de la thématique du 23, cher Guy. Avant toute chose, je vais commencer d'abord à demander à l'invité quelques préoccupations. La première préoccupation, quel indicateur de performance mettre en place pour évaluer l'impact de ces financements innovants sur la qualité d'assainissement? Et la seconde, quelle stratégie concrète les ETD peuvent-elles adopter pour mobiliser efficacement les mécanismes innovants de financement de l'assainissement, cher Guy Maté? Voilà, cher Guy, les mécanismes innovants de financement de l'assainissement apparaissent aujourd'hui comme une réponse stratégique aux limites budgétaires et institutionnelles auxquelles se heurtent les ETD. Leur adoption offre la possibilité de diversifier durablement les sources de financement, de responsabiliser davantage les communautés locales et d'améliorer significativement les cadres de vie des populations. Toutefois, leur efficacité dépend étroitement d'une gouvernance locale transparente et participative, de l'existence d'un cadre légal adapté, de l'implication active des citoyens ainsi que l'engagement du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Ainsi donc, les ETD sont appelés à concevoir et mettre en place des stratégies innovantes et inclusives pour mobiliser efficacement des ressources en faveur de l'assainissement. Je pense que je me limite à ce niveau-là pour laisser place à d'autres personnes, cher Guy. Merci.
Merci beaucoup, Blaise Saïdi. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Là, nous quittons Kisangani pour le Sud Kivu où Emina Mwanda nous attend à Bukavu. Emina Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Guy Maté. Bonjour à tout le monde.
Allez-y, Emina Mwanda.
Je disais aussi, monsieur Guy Maté, nous saluons le projet et l'initiative de l'institution. Mais le grand problème, vous savez que le dirigeant de ce projet-là est qu'il y a d'abord tous les paramètres pour pouvoir aider à ce que ce projet-là puisse aboutir. Nous sommes ici à Bukavu, comme il y a déjà un financement, on a annoncé qu'il y aura un financement, on va financer que les petites sociétés-là qui se mobilisent pour récolter les
dossiers. Justement, si vous avez suivi notre invité, il a parlé des études de faisabilité qui sont en cours, qui sont presque arrivées à la fin. Donc il y a des études qui sont en train d'être menées.
Allô?
Voilà, on a compris votre préoccupation, Emina Mwanda. Et là, nous quittons Bukavu pour revenir à Kinshasa, où Christian Kasese nous attend. Christian Kasese, bonjour.
Bonjour, cher Guy Maté. Mes salutations à l'invité et je salue également l'intervention pertinente de mes prédécesseurs. Je voudrais dire d'abord avant tout que, en réalité, cette initiative-là qui a été débattue à l'expo béton, pour moi, paraît subversif. Subversif pourquoi? Parce que déjà, vous verrez que au terme de la loi relative de la loi 2008 portant sur l'organisation, le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, ainsi que les rapports entre les provinces et le pouvoir central, les ETD disposent d'un budget distinct de celui du pouvoir central, également des provinces. Cela sous-entend quoi, que ces entités-là décentralisées, en réalité, ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir, aux besoins locaux, notamment l'assainissement de leur histoire. Et donc, moi, je ne comprends pas finalement cette initiative-là de financement. Je ne sais pas si ça va émerger de quel budget. Parce qu'il y a le principe de l'égalité budgétaire. Ça veut dire que une entité, une SED, ne peut pas utiliser des fonds qui ne sont pas repris en fait dans son dans sa décision budgétaire. Parce que la décision budgétaire, c'est en fait le budget pour une SED. Et donc moi, je pense de quoi plutôt que c'est subversif et qu'on devrait justement vouloir faire en sorte que cette initiative puisse émerger du budget. Si ça n'est pas le cas, carrément, nous serons en train de construire un château d'Espagne. Et donc, in fine, on doit à chaque fois comprendre que les sérieux problèmes auxquels nos ETD font face aujourd'hui n'est pas forcément le manque de financement. Il y a d'abord un problème de gestion des fonds dont ils disposent. Vous êtes sans ignorer, Serge Dimanche, comme tous les auditeurs, que les ETD disposent des budgets propres. Et ici, j'essaie d'alliser exactement aux recettes qu'ils récoltent, notamment les impôts. Il y a des impôts rétrocédés. Vous avez l'impôt foncier, par exemple, c'est un impôt rétrocédé. Vous avez l'impôt sur les revenus locatifs, c'est un impôt rétrocédé. Mais est-ce que c'est un problème de moyens? Moi, je ne suis pas d'accord. Si d'avoir un problème de transparence dans la gestion des recettes qu'ils récoltent, et en fait, de leadership responsable aussi, basé sur de la gestion basée sur les résultats. Donc, ça veut dire que cette histoire-là, ce mécanisme, cette initiative-là de bâtir à l'Expo Béton, moi, je considère comme tout simplement un non-événement, quelque chose qui vient encombrer inutilement. Donc, le problème des étudiants n'est pas un problème de financement, mais c'est un problème de gestion équilibrée des moyens dont ils disposent. Merci beaucoup.
Merci, bon, merci.
Vous permettrez beaucoup. Quand même que je réagisse, hein, parce que sinon, on va avoir beaucoup de choses et on risque de ne pas répondre à certaines préoccupations.
Allez-y. Il y a Blaise Haïdi de Kisangani, il y a Emina Mwanda de Bukavu, et là, nous venons d'écouter Christian Kasese depuis la ville de Kinshasa.
Oui, je vais commencer par Christian Kasese qui dit que l'initiative d'Expo Béton était un événement. Bon, il faut déjà ici voir que, avec chaque intervenant, il y a des éléments qui sont évoqués et qui touchent à différents aspects. Donc, ceci nous conduit...
Et que vous pouvez exploiter, n'est-ce pas, dans votre réflexion.
Oui, justement. Mais ceci nous permet déjà de voir qu'il y a diversité d'approches, il y a diversité d'analyses, bien sûr. Ça, il faut encourager pour qu'il y ait un débat de fond. Il faut quand même qu'il y ait des avis divergents. Mais c'est là, justement... montre, par exemple, là, je fais objection par rapport à l'avis de monsieur Christian Kasese pour dire que c'est justement de cette diversité d'avis qui nous montre que il faut que la question soit débattue. Et Expo Béton aujourd'hui se positionne comme une structure qui suscite le débat, la réflexion sur des questions de développement de notre pays. S'il y a un débat qui a été organisé sur la question des mécanismes innovants du financement de l'assainissement, mais ce n'est pas tout ce qu'Expo Béton fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la 10e édition. C'est une parenthèse que j'ouvre pour dire que nous sommes en train de préparer la 10e édition qui va porter sur 100 milliards à mobiliser pour rebâtir la RDC post-conflit. Ceci nous montre donc à suffisance que dans notre pays, il y a des problèmes qui se posent pour lesquels parfois le diagnostic est fait de façon diversifiée selon les milieux, selon les positions, selon... Bref, ça fait que il faut que les gens se retrouvent pour réfléchir, pour voir comment trouver des points de convergence qui nous amèneraient à des solutions durables. Monsieur Kasese dit justement que pour lui, la question, c'est pas un problème d'argent par rapport à l'assainissement, parce qu'il y a des...
C'est un problème de gouvernance.
C'est un problème de gouvernance, de leadership, mais cela va de soi. Parce que le peu d'argent qui est mobilisé au niveau des communes, pour certaines communes, on peut voir certains efforts qui sont fournis, certaines réalisations qui sont faites. Mais dans d'autres communes, on voit rien. Donc ça veut dire que, en relativisant les choses, on peut dire que, même avec peu de ressources, si celles-ci sont bien gérées, on peut voir les résultats. Mais il va de soi aussi que par rapport à la loi, quels sont les mécanismes de contrôle qui sont mis en application? Aujourd'hui, quand on regarde la loi liée au fait que les communes devraient avoir, par rapport au cadre légal, le conseil. Il y a les conseillers communaux qui devraient jouer le rôle, un peu comme du Parlement, au niveau urbain, n'est-ce pas? Au niveau de la ville.
Qui ont été élus.
Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, les mécanismes sont déjà opérationnels?
Non.
Pas encore. Alors, tout ça, ça fait partie du cadre légal qui devrait faire qu'aujourd'hui, si nous avançons jusqu'au niveau où on arrive à l'opérationnalisation de tout ce qui est prévu par la loi pour une meilleure gouvernance, pour le suivi, évaluation et contrôle par des entités attitrées, je pense que cela nous permettra d'arriver à avoir un cadre légal qui soit effectivement à même de nous mettre à l'abri de ce que nous pouvons déplorer aujourd'hui. Donc, quand nous analysons les choses, allons jusqu'au fond pour comprendre qu'aujourd'hui, par rapport à la question des moyens, effectivement, on peut dire qu'il y a un problème des moyens. Parce que quand on regarde l'ampleur des problèmes à résoudre, on peut considérer qu'il faut aujourd'hui d'autres sources qui puissent être mises à profit. Mais pour régler aussi la question de la gouvernance, il faut des mécanismes de suivi, contrôle, évaluation de ce qui est réalisé ou de ce qui est fait, de manière à ce que, qu'il y ait un équilibre par rapport à tout ce qui doit se faire.
Donc, on ouvre une fois de plus notre standard où nous allons, où là, on va à Kindu, dans les Maniema, où Blaise Kangela nous attend. Blaise Kangela, bonjour. Blaise Kangela, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Blaise Kangela. Allez-y.
Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Difficilement, on vous attend difficilement. Blaise Kangela.
Difficilement, problème de connexion.
Voilà, allez-y, allez-y. Est-ce maintenant, là, ça va. Ça s'améliore. Ça allez-y. Va, allez-y.
Ok. Merci. Je voudrais saluer d'abord l'invité et vous remercier de l'opportunité que vous nous accordez pour en débattre là-dessus par rapport à notre thématique. Et je ne voudrais plus m'attarder sur ce que venait de dire tout mon prédécesseur. Sinon, je voudrais aborder une analyse un peu contradictoire par rapport aux objectifs
assignés. Allez-y directement, allez-y à l'essentiel, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission.
Oui, je suis en train de dire que je reste un peu dubitatif par rapport à la faisabilité de ce projet, d'autant plus que les entités territoriales décentralisées dans notre pays sont en train de bénéficier des rétrocessions. Mais dès lors que l'État est incapable de pouvoir assumer sa responsabilité pour fournir des rétrocessions aux provinces, après que les provinces les rétrocèdent de les ETD, je ne vois pas la raison pour laquelle un projet dénommé Expo Béton doit venir maintenant appuyer les ETD à pouvoir réaliser la question.
Merci.
De l'assainissement de vie. Alors que l'assainissement des ETD font partie d'une mission qui sont régalées, mais confiées à chaque entité par rapport.
Merci. On a compris votre préoccupation. On va maintenant lire les condensés des réactions, une production de Julie Fezabongonda. Les réactions des auditeurs expriment diverses perspectives sur les mécanismes innovants des financements de l'assainissement pour les entités territoriales décentralisées ETD en RDC. Les avis favorables, les auditeurs favorables reconnaissent l'importance des mécanismes innovants comme opportunité utile pour améliorer l'assainissement. Ils insistent sur la nécessité d'une bonne gouvernance locale, de la participation des communautés, de la transparence, de l'évaluation régulière et d'une volonté politique forte pour assurer la durabilité. Plusieurs soulignent aussi l'importance de financer les ETD efficacement, de diversifier les sources de financement et de mettre en place des partenariats durables et inclusifs. Les personnes qui soutiennent cette position, Baraka Godefroy, Justin Unyangu, Patrick Eketebi, Blaise Saïdi, Dr Batundi, Kamit Twenge Denis, Chance Loagué. Alors, les réactions défavorables soulignent un scepticisme lié à un manque de leadership responsable, une gestion inefficace des ressources existantes, le manque de réalisme et d'approche pragmatique des projets, ainsi qu'une dénonciation des détournements des fonds et des impayés. Elles expriment une défiance envers le pouvoir central, notamment pour son incapacité à gérer les rétrocessions et à assurer un financement transparent. Une voix critique déclare carrément que ce sont des théories vides avec peu d'améliorations constatées sur le terrain. Les personnes qui soutiennent cette position, Christian Kassessé, Blaise Kangela, Steve Baogwere, et les positions neutres, il n'y a aucune réaction véritablement neutre ou mitigée. En conclusion, c'est une question qui vous est adressée. Monsieur Francis Ousseni, comment garantir l'efficacité, la transparence et la durabilité des mécanismes innovants des financements pour l'assainissement au bénéfice réel des entités territoriales décentralisées en RDC?
Bon, je pense qu'il faut arriver à continuer à échanger, à discuter à travers les cadres de concertation. Parce qu'aujourd'hui, comme nous le savons bien, La gestion des déchets ou la question de l'assainissement, ça fait partie de l'économie circulaire. Quand on dit économie circulaire, ça veut dire qu'il y a des implications liées à des activités aussi privées que publiques aujourd'hui. Mais si on arrive à ce qu'au niveau des ETD, le rôle de chacun soit respecté, l'État va mettre en place des mécanismes de suivi, contrôle, évaluation. Il reste dans un rôle normatif et les privés, parce que doivent aussi participer à la gestion de la cité, font leur travail, et si le rôle de chacun est respecté et bien suivi, je pense qu'on peut arriver à des résultats tangibles, parce que la question, elle est avec nous.
Nous sommes à la fin de l'émission. Quel est votre mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, les mécanismes innovants sont vrais, sont réels. Nous avons parlé de PPP notamment. Je considère que le partenariat public-privé constitue le mode le mieux adapté à la problématique pour nous permettre d'arriver à une solution qui soit durable.
Merci, c'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité qui était avec nous ici au studio, Francis Ousseni, secrétaire général d'Expo Béton et président de l'Organisation pour la gestion de l'environnement au Congo, OGEC en sigle. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Debs Vita qui est à la technique, Paul Bagnam à la vidéo et Julie Fezabongonda qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaké, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capi.